Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission mensuelle, émission diffusée sur Radio Lapourdi et Radio Présence. Nous abordons avec vous, Monseigneur Ayé, les sujets d'actualité qui concernent à la fois l'Église et notre diocèse. Alors, on va commencer avec des sujets de société. L'actualité, bien sûr, c'est ce projet de loi sur la fin de vie qui a été présenté par le président de la République dans une interview à La Croix et Libération. Projet de loi qui ouvre la porte au suicide assisté, à l'euthanasie, même s'il ne les appelle pas comme cela. Pour vous, j'imagine que limite a bien été franchie dans ce projet de loi.
Oui, je crois que les réactions de l'Église de France, par la voix du président de la Conférence des évêques de France, monsieur de Moulin-Bonfort, mais aussi son vice-président, sur Vincent Jordy, un membre du conseil permanent qui est un peu porte-parole aussi de la CEF hein, sur ces questions, monsieur Mathieu Rouget, on dit que la ligne rouge avait été franchie. Et j'ai été très frappé par la réactivité de Mgr de Moulin-Beaufort qui, très vite après, ou en réaction en tout cas immédiate à cette interview donnée par le président Macron à La Croix et Libération conjointement d'ailleurs, pour la présentation de son fameux projet sur la fin de vie, ne s'est pas fait attendre, hein, puisque aussitôt il y a eu une interview de Mgr de Moulin-Beaufort qui a été publiée dans La Croix sous le titre « Appelez loi de fraternité, un texte qui aura... » Le suicide assisté et l'euthanasie qui ouvre, le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie.
Alors les différentes religions se sont exprimées. Pour une fois, je crois que les musulmans sont sur la même ligne que les catholiques.
Ah oui, tout à fait.
Et les protestants et les juifs ont l'air d'être un peu moins offensifs sur ces questions-là.
Plus nuancés. Voilà. Oui. En tout cas, l'Église catholique a été très claire et a bien vu dans cette présentation une sorte d'enfumage. Hein. De fait, on se refuse à parler explicitement de suicide assisté, d'euthanasie, mais en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et on va même bien plus loin que dans d'autres pays, puisqu'on évoque même la possibilité pour un proche de faire cet acte de mort auprès d'un malade. Alors, comme d'habitude, on le sait bien, puisque ça a toujours été le cas, on présente ça comme une exception, que ce sera très encadré, qu'il s'agit de personnes majeures, dans des souffrances qui sont objectivement dites réfractaires, etc., etc., qu'on ne peut plus soulager. On sait très bien que tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, que ce soit la Belgique, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit le Canada, ça a toujours commencé par une loi d'exception, et très vite, en quelques années, on a ouvert une boîte de Pandore, et ça a été une exception qui est devenue une règle.
C'est ça qui vous inquiète le plus, c'est le fait que ce n'est qu'une première étape ?
Non, ce qui m'inquiète premièrement, c'est la transgression de l'interdit de tuer. C'est le permis de tuer. C'est le fondement même d'une civilisation, c'est le « tu ne tueras pas ». Hein, qui fonde la loi de fraternité. Comme dit Mgr de Moulin-Beaufort, c'est inimaginable que le président de la République ait l'outrecuidance d'utiliser des termes qui sont précisément présentés par la Conférence des évêques de France dans les discussions qui ont eu lieu avec lui-même, d'ailleurs, pour dire bah, non à l'euthanasie et au permis de tuer à cause de la fraternité. Et lui utilise, comme une tromperie, c'est bien le mot utilisé par Mgr de Moulin-Beaufort, ce terme de loi de la fraternité. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est pas seulement la réaction des religions, et encore heureux que nous puissions encore avoir la voix de la conscience quand elle est si obscurcie de manière collective, et en particulier chez nos parlementaires et nos gouvernants, mais c'est aussi la réaction des soignants qui disent « mais on ne nous a pas consultés ». Nous n'avons pas été intégrés dans la rédaction de ce texte. Et là où le président de la République a dit explicitement, et ça a été dans toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux, lorsqu'il a présenté ses vœux aux représentants des diverses religions au début de l'année, il a dit qu'il y aurait deux lois, qu'on commencerait par une loi massive sur les soins palliatifs. Or, dans le projet de loi qu'il présente, les soins palliatifs sont en deuxième position. Et l'augmentation qu'il apporte est infime par rapport aux vrais besoins, car nous savons que le vrai problème en France de la fin de vie, c'est que le droit d'accès aux soins palliatifs n'est pas généralisé, et qu'il y a encore 22 ou 23 départements, je crois, en France, où l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. Et chacun sait que c'est là que se jouent les choses et que les soignants sont bien placés pour le savoir. 90% des médecins engagés, ou des soignants, infirmiers ou aides-soignants, etc., engagés dans les soins palliatifs, sont absolument contre ce projet de loi en disant « soulager n'est pas tuer, donner la mort n'est pas un soin ». Et on sait aussi pertinemment, et ça a été dit sur tous les tons, mais ça n'est pas suffisamment relayé par les médias, c'est évident, qui sont quelquefois sous la pression de lobbies ultra-minoritaires mais extrêmement offensifs. On sait que les malades qui sont pris en charge dans des services de soins palliatifs ne demandent pas la mort.
Lundi matin, 14 organisations professionnelles et sociétés savantes ont publié un communiqué pour dire qu'elles étaient consternées par les propos du président de la République. Alors, notamment dans ce collectif, il y a Véronique Averous, qui est la médecin chercheur et chef de service de médecine palliative au CHU de Bordeaux. Donc, elle est quand même en première ligne sur ces questions. Et elle nous dit 50% des patients n'ont pas accès à un accompagnement adapté, soit 500 personnes par jour, une personne sur deux.
Absolument, oui. Je pense que ça, cette réaction des soignants est fondamentale. J'espère que les médias vont vraiment la relayer. Parce qu'au fond, c'est eux qui sont les premiers concernés. Et c'est eux qui s'engagent corps et âme au service de ces malades. Vous voyez, cette espèce de formule qui a fait florès depuis la création de cette association pour mourir dans la dignité, ça a l'air de dire finalement que quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans le handicap, n'est pas digne. Voyez, mourir dans la dignité, ça veut dire mourir sans souffrir, sans handicap, sans déchéance physique. Est-ce qu'un handicapé, un polyhandicapé, est moins digne qu'une personne en bonne santé ? C'est grave de pouvoir imaginer ça.
Et puis il y a aussi peut-être la question de la liberté, où la définition de la liberté est peut-être faussée, puisque c'est au nom de la liberté que les gens disent « j'ai le droit de mourir, je fais ce que je veux, je suis libre ». Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que veut dire le mot liberté ?
Ben, le mot liberté, comme le mot dignité, un mot galvaudé, qu'on peut interpréter de bien des manières, surtout dans le contexte libertaire qui est le nôtre, où la liberté devient un absolu. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, et je crois que c'est le bon sens qui parle, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire de grandes réflexions philosophiques, mais chacun d'entre nous n'a pas été libre de venir au monde. À partir de là, il y a une donnée de nature qui commande tout le reste, et ça n'empêche pas la liberté. Mais la liberté, elle est orientée par une donnée de nature que nous ne sommes pas donnés à nous-mêmes jusqu'à preuve du contraire. Et donc je ne vois pas comment on peut de cette manière invoquer la liberté pour proclamer le droit de se donner la mort. Sans compter que nous sommes dans une société où on fait beaucoup pour la prévention du suicide, et que c'est, on peut être pénalisé de non-assistance à personne en danger si on n'aide pas quelqu'un à vivre quand il est tenté de se suicider. Et aujourd'hui, on va légaliser le suicide assisté en fin de vie. On sait que dans tous les pays où le suicide assisté a été légalisé, comme on prétend le faire aujourd'hui, le taux de suicide a augmenté dans la société.
Le droit à l'avortement figure désormais dans la Constitution française, autre sujet douloureux pour l'Église. Comment vous expliquez que l'Église ne soit pas entendue à ce point sur des sujets qui sont pleinement humains ?
Et parce que pendant un temps, on n'a peut-être pas assez parlé assez fort, qu'on a cru de bonne foi, et je pense que c'est logique, on a cru à un dialogue apaisé, éclairé, intelligent, courtois avec les décideurs qui nous ont fait croire que notre point de vue pouvait avoir un intérêt, sans compter que notre point de vue n'est pas seulement un point de vue dicté par la foi, mais comme vous l'avez souligné vous-même, un point de vue qui est dicté par la raison. Hein, scientifiquement aujourd'hui, personne de sérieux ne peut dire que la première cellule fécondée avec sa molécule d'ADN qui détient l'information qui fera que telle personne sera telle personne et pas une autre, personne ne peut dire que ce n'est pas un être humain. Sachant d'ailleurs qu'il n'y a aucun seuil autre que la fécondation qui puisse nous permettre de dire à partir d'aujourd'hui, nous sommes en face d'un être humain. Personne humaine, c'est autre chose. Ça, c'est une reconnaissance juridique, donc ça n'a pas de sens ici. Mais que ce soit un être humain, c'est évident. Personne de sérieux, scientifiquement, peut dire que l'être humain en question, cet embryon, fait partie du corps de la femme. Bien sûr qu'il est dans le corps de la femme pour grandir, mais il dicte ses lois à la femme pendant tout le temps de la gestation. C'est un organisme vivant, indépendant, individuel, composé d'ailleurs d'une partie de gamètes qui vient de l'homme. Voyez. Et même si l'on disait le droit de la femme à disposer de son corps, ben c'est le droit de la femme à se mutiler, si ça fait partie de son corps. Or, on est contre la mutilation aussi, on est contre l'excision. Vous voyez, je mélange peut-être tout, mais on ne se rend pas compte des conséquences de ce que nous disons. Voyez. Là, comme l'ont souligné les évêques de France dans leur communiqué, et d'autres évêques, des voix qui sont fait entendre, comme la mienne d'ailleurs, mais pas la seule, beaucoup d'autres, eh bien, nous disons, avant tout, il y a une atteinte grave à la vie humaine. On a l'impression que l'enfant à naître est le grand oublié des débats. Et on s'est euphorisé autour de ce droit qui, soi-disant, est une victoire des droits de la femme, mais on a oublié complètement l'enfant qu'elle portait. Et c'est quand même 234 000 enfants à naître qui ne verront pas le jour à cause de l'avortement en France. Nous détenons un record absolu. Quand vous savez qu'en Italie, pour une population semblable, il y a 55 000 avortements par an, pendant que nous avons 234 000.
Mais après, est-ce que les femmes italiennes ne vont pas ailleurs pour se faire avorter? Est-ce qu'elles ne viennent pas en France, justement?
Mais la loi et la légalisation est la même.
Parce que l'avortement, c'est toujours un drame pour une femme, quand
absolument.
Même.
Absolument. Ça aussi, c'est une chose qui n'est pas suffisamment soulignée. C'est même Simone Veil qui affirmait ça. Mais voyez, on a l'exemple même d'une loi qui est partie d'une exception, en cas de détresse, qui a évolué à travers la législation et finalement la banalisation de cet acte dans l'opinion publique, et qui a donné qu'on est passé d'une exception à un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Vous imaginez, ça peut-être pas ça n'ajoute sans doute rien sur le plan juridique, parce que l'avortement n'est pas menacé en France, il est déjà très facile d'avorter, mais d'un point de vue symbolique, c'est très grave. Et le symbole, en l'occurrence, c'est aussi ce qui peut faire vaciller une civilisation.
Or, que faire maintenant, puisque tout ça, c'est dans la loi? C'est un peu comme pour le mariage pour tous, où il y a eu quand même des manifestations importantes en 2013, notamment. Alors, que faire?
Moi, je ne baisse pas les bras. La seule chose que je me dis, mais ça fait longtemps que je me le dis, ça ne sert à rien de discuter institutionnellement avec ceux qui sont à l'origine des lois et des décisions qui sont prises pour régir la vie et les destinées de notre peuple.
Est-ce qu'il faut faire sécession, alors?
Je ne sais pas si faut faire sécession, mais non, je ne dirais pas qu'il faut faire sécession, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais je dirais qu'il faut continuer à réveiller la conscience des gens. Il faut continuer à parler à la conscience des gens. Et parce que je pense, vous voyez, on s'est targué de dire cette immense majorité de sénateurs et de députés rassemblés en congrès qui ont voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais moi, je crois qu'une grande majorité de ces députés, je veux le croire en tout cas, une grande majorité de ces députés et de ces sénateurs ont voté à contre-cœur, contre leur conscience. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous une pression qui est terrible. Imaginez notre député Vincent Bru, qui était le seul de son groupe, non pas à voter contre, mais simplement à s'abstenir lors des débats. Mais il est la risée et il est l'objet d'attaques en règle dans les médias. La liberté d'expression n'est plus du tout respectée. Et il est devenu un délit, quasiment, de ne pas être d'accord avec l'opinion dominante. Donc je pense qu'il faut un courage. Donc je ne jette pas la pierre à ces députés, ces sénateurs, qui, sous la pression médiatique, sous la pression des lobbies, sous la pression politique aussi, il fallait entendre M. Dupond-Moretti présenter ce projet de loi au Sénat, pour comprendre avec quelle autorité et quelle pression faite sur les députés, les sénateurs, par rapport au progrès et au progressisme ambiant, était pesé sur eux, vous voyez. Donc je crois qu'il faut se tourner vers les gens, parler à la conscience des gens, ne peut-être que l'Église dans sa prédication, ça ne s'agit pas d'en faire une obsession, mais dans sa prédication devrait davantage souligner la valeur de la vie humaine depuis son commencement jusqu'à sa mort naturelle. Alors, nous ne verrons pas la victoire.
En parlant de la valeur de la vie humaine, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui.
Oui, absolument. À Gaza et en Ukraine, tous ces conflits où l'on sent une sorte d'escalade de la violence, le pape précisément, pour ce qui est de Gaza, déjà le cardinal Parolin, secrétaire d'État du pape il y a quelques semaines, a été le seul à s'élever contre la disproportion de représailles israéliennes vis-à-vis du Hamas, qui reste une organisation terroriste terrible. On comprend très bien qu'il faille éradiquer ce genre
de... Est-ce qu'on peut éradiquer une organisation terroriste ? Parce que quand même, dans l'histoire, dans l'expérience, on n'éradique jamais une organisation.
Ça, je n'en sais rien. Ce que je crois que c'est logique de vouloir lutter contre, et de chercher en tout cas à l'éradiquer ou à l'empêcher de nuire. Mais ce qui est grave, c'est quand on ne tient pas compte des innocents qui sont eux-mêmes les effets collatéraux de ce combat qui peut paraître juste. Et on sait en effet que beaucoup d'innocents sont morts sous les bombes à Gaza et meurent aujourd'hui sous les bombes.
Je crois qu'il y a 30 000,
Oui. Je crois qu'il y a à peu près 30 000 Palestiniens qui ne sont pas tous des terroristes du Hamas, tant s'en faut, et qui sont quantité négligeable dans ce conflit.
Justement, une neuvaine est en cours, lancée par les amis de Sainte Mariam Bawardi, donc de Pau. C'est jusqu'au 18 mars. Donc l'Église a un rôle à jouer, pas seulement par la prière, mais aussi par la prière pour la paix.
Oui, aussi par la prière. Je crois que c'est très important. La prière est une arme spirituelle qui nous rappelle que la résolution de beaucoup de problèmes humains n'est pas seulement entre nos mains, même s'il faut y participer de manière responsable, mais entre les mains de Dieu, il faut aussi s'abandonner entre un Dieu qui est un Dieu de paix. Et c'était une belle opportunité de se rappeler que Sainte Mariam de Jésus crucifié est une petite palestinienne, qu'elle est réputée être la patronne de la paix en Terre Sainte, et elle est quand même passée par Pau, et elle a, c'est son cœur était à Pau, hein, comme on le sait, même s'il était volé par quelqu'un de dérangé sans doute, mais qu'on a perdu ce cœur de Sainte Marie Jésus crucifié, qui a connu des grâces mystiques insignes à Pau, dans son Carmel, et qui a fait son noviciat ici, elle l'appelle son Carmel paternel. Eh bien, c'est intéressant de se dire, nous on a une sainte là, qui s'est sanctifiée chez nous, et qui est la patronne de la paix en Terre Sainte. Voilà pourquoi j'ai approuvé cette initiative de prier pour la paix en Terre Sainte, mais ça n'empêche pas en même temps de prier pour la paix en Ukraine.
Justement, en Ukraine, le pape a été critiqué parce qu'il a demandé à ce que l'Ukraine dresse le drapeau blanc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'Église doit s'exprimer sur ces questions ?
Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que l'Église est la seule qui porte le haut et fort la bannière de la paix. Et aujourd'hui, on voit bien là aussi qu'il y a une escalade terrible, que sous prétexte que la Russie aurait envahi l'Ukraine indûment, on condamne une population à la mort. Et il faut voir le nombre de tués parmi les Ukrainiens qui n'ont plus les moyens maintenant, les moyens humains que personne ne leur donnera. C'est pas de donner des munitions et des chars et des avions, comme nous le faisons à tour de bras. On a encore déployé en France, quand nos agriculteurs peinent à vivre du fruit de leur travail, nous, on est capable encore de débloquer 3 milliards ou 5 milliards, je ne sais plus, pour l'Ukraine. Mais ils n'ont plus d'hommes pour le faire. Et nous, on ne va pas rentrer dans un conflit qui ne nous regarde pas. On devrait être des artisans de paix, des négociateurs. Et on est des va-t-en-guerre.
On peut négocier avec Poutine ?
Mais on peut négocier avec tout le monde. On peut essayer de négocier.
On peut négocier avec quelqu'un qui assassine sa propre population, pense en Albanie.
Mais ça, moi, je dis que dans tout conflit, on doit favoriser la négociation. C'est bien ce que dit le pape François. On doit pouvoir négocier aussi. On doit pouvoir agiter le drapeau blanc à un moment ou un autre. On ne va pas laisser une population complètement anéantie sous prétexte qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas négocier avec Poutine. Je pense qu'il faut croire qu'on peut aussi négocier avec Poutine.
Nous vous retrouvons dans quelques instants et nous parlerons de l'année de la foi et de l'appel.
Radio Lapordi.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé. Alors, depuis le mois de novembre, nous sommes dans une année diocésaine de la foi et de l'appel. Alors, où en est-on aujourd'hui ?
D'abord, je suis agréablement impressionné par le fait que beaucoup de nos communautés paroissiales aient joué le jeu de cette année de la foi. Ça s'est mis en place doucement, mais c'était logique aussi. On ne met pas en place une, une opération comme celle-là d'un seul coup, mais j'ai pu apprécier, en parlant avec les uns et les autres, les curés, les prêtres, mais en général, mais aussi les fidèles, que dans beaucoup de paroisses, on avait mis en place déjà au cours de la première étape ces petites fraternités, ces petits groupes de partage autour de la parole de Dieu. Donc je suis très satisfait de ça, parce qu'au fond, on a mis en place une espèce de chemin d'initiation chrétienne, communautaire, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Qui est appelé à perdurer, ces fraternités peuvent continuer après.
Et qui est appelé à perdurer. Hein. Le but, c'était pas seulement de dire pendant la première étape on fait ça, puis après on fera autre chose. Ce qu'on fait après touche davantage des temps forts ou des personnes dans leur relation personnelle avec le Seigneur, puisque la deuxième étape, c'est la foi comme relation d'amitié avec le Seigneur.
Voilà, on est dans la deuxième étape en ce moment.
On est dans la deuxième étape, mais dans la première étape, c'était de mettre en place ces fraternités et se dire que c'est une démarche ecclésiale, c'est développer un petit peu ce sentiment d'appartenir à une communauté de foi et qui nous transmet la foi, hein, la foi comme connaissance. C'était donc la première étape. Et donc cette étape-là a perduré, ces petites fraternités autour de la parole, autour de la catéchèse. Beaucoup de paroisses ont mis en place aussi des temps de catéchisme pour les adultes, et donc tout ça est très, très heureux. Deuxième étape, donc, la foi comme relation personnelle avec le Seigneur, centrée sur l'oraison, l'apprentissage ou la redécouverte dans la vie chrétienne de ce temps d'intimité avec le Seigneur selon le commandement qu'il nous donne lui-même dans le sermon sur la montagne quand il dit bien pour vous quand vous priez, pour toi quand tu pries, entre dans ta chambre, la chambre intérieure de ton cœur, prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, c'est ferme sur toi la porte à la pression des urgences, ferme sur toi la porte aux personnes qui t'habitent, à la fois dans ton affection, dans tes affections et dans tes hostilités ou tes répulsions, confie-les au Seigneur et toi entre gratuitement dans cette relation avec le Seigneur qui te le rendra d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Donc il y a des temps de récollection qui ont été proposés aux fidèles. Au Pays Basque par Coto Pais, que nous connaissons bien dans la spiritualité ignatienne, à Pau par l'abbé Pierre Amburu, qui lui est de Notre-Dame de Vie, donc c'est un institut séculier carmélitain, donc est centré aussi sur l'oraison, hein, que Sainte Thérèse d'Avila a défini comme ce colloque intime avec Jésus-Christ dont nous savons aimer. Et puis les pères de Sarance, des prémontrés, qui ont aussi proposé à Sarance une journée de récollection.
Ensuite, il y aura donc ce pèlerinage diocésain à laquelle vous invitez tous les fidèles donc, du 21 avril au 18 mai. Alors comment ça va se passer?
Alors ça, c'est bien indiqué dans notre petit guide de l'année de la foi. Là, ce sera dans la troisième étape, qui sera celle du temps pascal et qui s'achèvera avec la journée diocèse en fait, le 18 mai à la cathédrale, veille de Pentecôte. Et donc il s'agit bien de faire pèleriner à travers notre diocèse, de lieu en lieu, pendant ces quelques semaines, quatre semaines, une Vierge qui sera accueillie dans des paroisses tous les soirs ou dans des sanctuaires, et avec des animations proposées localement, et puis où seront invités les fidèles de cette communauté paroissiale à faire un petit bout de chemin avec, hein, sachant qu'il y aura une équipe permanente, évidemment, qui marchera pendant ces quatre semaines à travers le diocèse pour demander des vocations au Seigneur.
Le pèlerinage se terminera le 18 mai, donc là, vous faites un appel aussi à tous les diocésains pour ce 18 mai.
Bien sûr.
Que tout le monde vienne à Bayonne.
Oui, ça sera organisé au niveau des paroisses, évidemment, mais c'est très important de...
Alors, qu'est-ce qu'il y aura le 18 mai? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu le
Alors,
programme?
Alors, il y a une équipe qui est chargée d'organiser cette journée sous la responsabilité de l'abbé François de Mesmé, qui d'ailleurs est le directeur diocésain des pèlerinages, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas à cause de ça. Il rassemble autour de lui une petite équipe qui vient à la fois de la pastorale des jeunes, la pastorale de la famille, etc. Et qui doit organiser une journée qui sera d'abord une marche, hein, depuis Notre-Dame du Refuge, jusqu'à Saint-André, puis à la cathédrale, et qui se terminera par des témoignages, sachant que on a il y aura une marche en trois groupes, et chaque groupe approfondira la foi dans une des trois personnes de la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qui termine par des témoignages qui seront à la fois une sorte de reditio de la foi, comment la foi, comment notre foi en Dieu Père, en Dieu Fils et en Dieu Esprit Saint a de l'impact dans notre vie concrète, et puis l'émergence aussi de quelques témoignages de vocation spécifique qui se feront plutôt l'après-midi, mais ça se terminera évidemment par une messe de clôture pour la vigile de Pentecôte, au cours de laquelle nous confirmerons 90 nouveaux confirmants adultes.
C'est un chiffre record, non ?
Un chiffre record jusqu'à présent, oui. On n'a jamais eu autant de confirmants adultes.
Alors cette année de la foi et de l'appel, vous le disiez, c'est pour faire naître des vocations. Justement, ce dimanche 17 mars, on va avoir deux institutions, au lectorat et à l'acolyta. Ça se passera à Sainte-Marie d'Anglette, c'est ça ?
C'est ça. Donc il s'agit de deux jeunes du séminaire Redemptoris Pater, Saint-Jean-Paul II. Donc le lecteur, c'est Jérôme, qui lui est un Ivoirien, Et puis l'acolyte, ce sera Miguel Angel, qui lui est un Vénézuélien, mais évidemment pour être incardiné dans le diocèse de Bayonne, où ils assument leur formation depuis leur propédeutique.
Donc lecteur et acolyte, pardon, ce sont les premières étapes.
Ce sont les premières étapes
après.
La première étape, c'est l'admission comme candidat au sacerdoce, qui généralement se fait au cours de la première année de théologie. Et ensuite, nous avons l'institution du lectorat, l'institution de l'acolyta, puis ça ouvre la porte au diaconat et au presbytérat. J'en profite d'ailleurs pour dire que nos deux séminaires, on n'a peut-être pas eu l'occasion de le dire, mais c'est important, ont été visités par une équipe d'observateurs extérieurs, si je puis dire. C'était une décision prise par les recteurs de séminaires en France de se proposer des visites fraternelles, non pas pour faire une inspection, ce n'est pas une visite canonique, non pas pour donner des recommandations obligatoires, mais pour...
Comme quand on faisait les visites pastorales.
C'est ça. Et donc, l'équipe qui a visité le séminaire, c'est Mgr Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes-et-Lourdes, mais qui est aussi le président du CEMOLEM, au niveau de la Conférence des évêques de France, c'est-à-dire le conseil épiscopal pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, et qui est chargé des séminaires, un peu en France, de les suivre, avec un recteur de séminaire qui est celui de Toulon, l'abbé Benoît Moradeil, que moi j'ai connu jeune lycéen, quand j'étais dans une autre vie dans ce diocèse. Un curé du diocèse, c'était Victor Gomez, curé d'Orthès et vicaire épiscopal de cette zone. Et puis une femme qui venait de Lyon, je crois, qui elle fait partie de la focale. Et tous les quatre, eh bien, ont rencontré les séminaristes, les équipes de formation, ont vécu pendant 3 jours au séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, à la fois la propédeutique et le séminaire, et au séminaire Redemptoris Pater d'Anglette. Et vu aussi l'osmose entre les deux séminaires, la communion entre les séminaristes et les équipes de formation, qui est quand même aussi un grand défi pour l'avenir, parce qu'ils auront à travailler ensemble dans ce diocèse. Et ils ont été très, très, très bien impressionnés. On a des rapports qui sont très positifs.
Est-ce qu'il y a des conclusions ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils nous ont dit ?
Il y a un rapport qui est donné, qui appartient à l'évêque et au recteur. Moi, j'ai passé deux heures.
C'est un rapport secret ?
Ce n'est pas un rapport secret, mais c'est un rapport qui concerne les premiers intéressés. Mais les séminaristes auront l'essentiel de ce rapport qui sera donné par l'un des membres par visioconférence. Et puis, nous, on va travailler tout ça. Et je peux vous dire quand même que, et c'est ça qui, pour nous, est très encourageant. D'ailleurs, ils ont parlé de beaucoup d'espérance. Ils n'ont pas été du tout rebutés par le petit nombre, même si au départ, ils avaient qu'un petit préjugé en disant, mais comment on peut faire avec si peu de séminaristes ? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une période de vaches maigres. Ils ont dit, mais non, c'est magnifique ce qu'on peut faire, même avec un petit nombre. Et en tout cas, ils ont trouvé que c'était plein d'espérance. Et j'avoue avoir été très heureux de la conclusion de Mgr Mica et de son équipe avec qui j'ai passé 2 heures, moi, au terme de cette visite. Donc, alors évidemment, il propose aussi des petites choses, des petits ajustements, donc ça c'est très bien. Je crois qu'on a besoin du regard extérieur aussi pour faire avancer les choses, non seulement pour être encouragé. Je parlais avec des séminaristes hier qui m'ont dit avoir été très encouragés par cette visite. Et puis, y a des petits ajustements qui nous ont aussi suggérés, qui seront tout à fait bienvenus.
La question que beaucoup se posent, est-ce qu'il y aura des ordinations sacerdotales cette année ?
Alors, pour la première fois, il n'y aura pas d'ordination sacerdotale du séminaire, de nos deux séminaires. Il y aura une ordination sacerdotale quand même d'un jeune qui a fait tout son séminaire ici, qui est Jean-François Baudson, pour la fraternité Saint-Thomas-Becket. Donc il y aura une ordination, mais qui n'aura pas forcément lieu dans le diocèse, sachant que c'est une fraternité qui est un peu dans plusieurs diocèses. Donc j'ai accepté de le faire dans un autre lieu que dans le diocèse cette année.
Mais il sera incardiné à notre diocèse, comme tous les membres de la fraternité Thomas-Becket.
Voilà.
Un mot peut-être, Monseigneur, puisqu'on parle de vocation, sur le cycle Saint-Jean-Paul II, puisque vous en parlez souvent. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est ? Il y a des prêtres qui sont formés en ce moment à ce cycle, c'est ça ?
Oui. Donc le cycle Saint-Jean-Paul II, c'est une espèce de... C'est plus un charisme qu'une méthode, qui a été inspirée à un prêtre du diocèse de Luçon, qui s'appelle l'abbé Jean-Marie Parra, donc avec là, évidemment, la bénédiction et la mission donnée par son évêque, qui aujourd'hui est Monsieur Jacolin, évêque de Luçon, et administrateur apostolique de La Rochelle d'ailleurs, et qui consiste à proposer un itinéraire de discernement des vocations. Pas seulement des vocations spécifiques, mais de la vocation fondamentale, qui est la vocation chrétienne, qui s'enracine dans le baptême, et qui permet aussi l'émergence, peut-être, du discernement d'un appel plus spécifique à la vie religieuse ou à la vocation sacerdotale. Et donc on a un prêtre, qui est l'abbé Louis Le Grel, qui serait bon d'ailleurs d'interroger, sur Radio La Pourdie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire déjà, qui se forme à ce cycle, à raison d'un week-end par mois, c'est quand même assez exigeant, plus une retraite, plus qui ne se font pas sur place, parce que c'est à Luçon, mais en divers lieux, c'est peut-être à Solem, ça peut être aux Béatitudes. Ils ont fait un week-end qui s'est passé aux Béatitudes à Naye ou à Lourdes, donc divers lieux en France. Et donc on a aussi monté, parallèlement à cette formation au cycle Saint-Jean-Paul II, un cénacle de prêtres qui se réunissent une fois par mois sous la conduite de l'abbé Fabien Damet, qui est prêtre coopérateur à Orthès, et qui, prient ensemble, se sensibilisent à cette pastorale des vocations et approfondissent les lettres de Saint-Jean-Paul II aux prêtres, qui sont quand même un beau trésor aussi, pour mieux cerner la spiritualité sacerdotale, et en particulier du cœur sacerdotal de Jésus. Jésus grand prêtre. Voilà.
Donc ça veut dire que l'abbé Louis Le Grel, après, formera des jeunes ?
L'abbé Louis Le Grel, il se forme au cycle originel qui est pour l'instant à Luçon, mais qui a déjà un cycle qui existe à Bordeaux, parce que Bordeaux est aussi partenaire de ce cycle Saint-Jean-Paul II, mais pour l'Aquitaine, la nouvelle l'Aquitaine, oui. Et donc il fera une deuxième année de stage, pourrait-on dire, où il sera formateur lui-même dans ce cycle de Bordeaux. Et si un jour il y a assez de jeunes, ou il y a trop de jeunes à Bordeaux et assez de jeunes chez nous, eh bien on fera un cycle chez nous. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un partenariat avec les autres diocèses.
Radio La Pourdie, Ratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons Mgr Marc Caillé. Alors, vous avez participé à la journée des 6e 5e le 9 mars dernier. Comment ça s'est passé ?
Bien passé. Non, ce sont des journées magnifiques. Je crois que c'est très encourageant pour le service diocésain de la catéchèse. D'abord, je salue la persévérance de Demi Pommier d'organiser des journées magnifiques avec toute son équipe de catéchèse, mais puis tous les animateurs qui viennent, les prêtres qui sont présents. Il y a beaucoup de joie qui se dégage dans ces journées-là. Là, c'était les 6e, 5e, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même à peu près 400. Donc on a commencé à Saint-Bernard cette fois-ci, avec trois ateliers. Moi, j'ai eu l'honneur d'animer un de ces ateliers sur le thème de suivre Jésus. C'était être avec Jésus, suivre Jésus et vivre de Jésus. Avec des jeux, des confessions, peut-être pas assez de confesseurs cette année, il y avait à peu près une dizaine de prêtres, mais les enfants veulent vraiment se confesser, donc ça c'est beau. Et puis ensuite, nous sommes partis à pied depuis Saint-Bernard jusqu'à la cathédrale. Donc, j'étais le bon pasteur qui conduisait ce troupeau
joyeux. Votre crosse.
Non, joyeux. Et puis on a terminé par l'adoration cette fois-ci à la cathédrale. D'habitude, on parle de la cathédrale pour la Saint-Bernard et on fait l'adoration dans le gymnase. Là, on a commencé à Saint-Bernard et on est allé à la cathédrale. Et c'est vrai que pour ces enfants qui pour beaucoup ne sont jamais entrés dans la cathédrale, surtout quand ils viennent du Béarn, parce qu'ils venaient de tout le diocèse, ben ils sont saisis hein, par la beauté de cette... qui pour eux est gigantesque, évidemment. Hein. Et ce temps d'adoration était magnifique, hein, une très belle conclusion. Non, je crois que c'est des grands moments de notre vie diocésaine.
Ce week-end, c'était aussi le 8 mars, la journée mémorielle pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors juste un mot peut-être sur l'actualité qui continue d'en parler, des affaires au collège de Bétarame. Voilà. Un petit mot peut-être par rapport à tout ce qui se dit dans l'actualité.
Je crois qu'effectivement, il y a un collectif de victimes à la fois de violences physiques, semble-t-il, et de violences sexuelles, hélas, qui ont été perpétrées dans les années 50, 60, 70, 80, dans le collège de Bétarame. Donc évidemment, ça a été un petit séisme local, parce que Bétarame avait une grande réputation, bien entendu, et ça écorne aussi la réputation de nos frères de Bétarame. Et alors évidemment, tout ça entre les mains de la justice, donc il est évident qu'on ne peut pas beaucoup en ajouter, mais c'est vrai qu'on est évidemment tous solidaires des victimes et consternés par ce qui se révèle au fur et à mesure, même si ce sont des événements passés, mais pour les victimes, la souffrance est toujours présente. Et donc ça nous rappelle aussi cette journée mémorielle pour les victimes d'agressions sexuelles qui s'est essentiellement passée dans les paroisses, hein, et tout un ensemble de documents pour aider les communautés à organiser quelque chose pour faire mémoire des victimes d'agressions sexuelles dans le cadre d'une célébration de la parole et de prière pour toutes les victimes d'agressions, quelles qu'elles soient.
C'était aussi ce week-end les 24 heures pour le Seigneur, il y avait beaucoup de choses, donc le 8-9 mars, plusieurs paroisses l'ont
absolument
organisé aussi.
Oui, et puis quelquefois l'étendant aux paroisses alentour, comme on leur avait proposé. C'est une initiative que le pape François a prise il y a déjà quelques années, de proposer entre le vendredi et le samedi de la quatrième semaine du carême. Un temps de pour le Seigneur où il y a possibilité de prier ensemble, de partager la parole, d'adorer le Saint-Sacrement, de célébrer la messe, avec différents groupes de prières qui peuvent être présents sur le territoire d'une paroisse ou d'un doyenné, mais aussi de se confesser. Et donc d'accéder vraiment à ce sacrement de la réconciliation. Je note que ce sacrement de la réconciliation est de plus en plus proposé dans les paroisses, y compris durant la messe, quand il y a plusieurs prêtres, et avec beaucoup de succès. Donc c'est une bonne nouvelle. J'en parlais avec les prêtres Fidei Donum que nous avons rassemblés dimanche dernier, 10 mars, et ils faisaient part justement de leur expérience aussi dans leur paroisse.
Donc les prêtres qui viennent de l'étranger.
Qui viennent d'ailleurs, oui.
C'est bientôt Pâques et des catéchumènes vont bientôt être baptisés. Alors je crois qu'ils sont une quarantaine, c'est ça? Ils seront baptisés chacun dans leur paroisse?
Voilà. Ils sont 41.
Vous vous réjouissez aussi de ce
nombre? Oui, parce que le nombre de catéchumènes augmente. Et puis, pour les prêtres et les fidèles aussi qui les accompagnent, c'est vraiment une bouffée d'air. Hein. Dans les paroisses, c'est un lieu de grande espérance et de grande joie. Et moi, j'ai l'occasion évidemment de lire leurs lettres et de les rencontrer tous un par un. Et je suis très reconnaissant à ce que le Seigneur fait hein, dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, souvent jeunes, hein, la trentaine comme moyenne d'âge, qui viennent de situations parfaitement inattendues par rapport à la demande qu'ils font à l'Église de rentrer dans l'Église par la voie du baptême.
Ils recevront d'ailleurs, la plupart recevront
les trois sacrements.
Donc baptême, eucharistie, confirmation. Et en plus, il y aura les confirmés du 18 mai,
voilà,
qui sont d'autres...
D'autres recommençants.
Mais 90 confirmés.
90 confirmants, ouais.
C'est un chiffre à retenir.
Alors mais j'espère qu'on pourra dépasser jusqu'à 110 ou 130. Il y a des limites comme ça qu'on peut se donner.
Vous venez de renouveler l'équipe de la pastorale familiale qui organise une première journée des fiancés le 6 avril. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette équipe?
Alors l'équipe est composée de 6 couples plutôt jeunes, du Béarn comme du Pays Basque, qui d'ailleurs ont commencé à faire une espèce d'audit, entre guillemets, hein, dans les différents doyennés paroisses pour savoir comment s'organise la préparation au mariage ici ou là, pas du tout pour faire un contrôle, mais voir toutes les bonnes pratiques pour les partager, voir aussi ce qui pourrait manquer et qui va nous aider beaucoup dans notre travail sur le directoire sacramentel avec le conseil prélitéral en particulier quand on abordera la question du mariage pour donner quelques orientations un peu générales, hein, tout en respectant ce qui se fait ici ou là selon les paroisses et les communautés. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est de préparer une journée des fiancés selon un mode un peu nouveau qui se pratique dans beaucoup de diocèses, comme à Bordeaux, déjà dans notre région, donc de manière plus kérigmatique, à partir de témoignages de couples qui ne sont pas des couples modèles, qui sont des couples capables de dire comment dans leur combat, qui sont les combats de beaucoup de couples aujourd'hui, parce que ce sont des gens de leur temps, eh bien, comment leur rencontre avec le Seigneur a changé les choses et leur a ouvert des belles perspectives par rapport à ce bel état de vie et ce beau sacrement qu'est celui du mariage. Donc cette journée aura lieu au complexe de l'Immaculée Conception, donc à Pau, au gymnase Arnaud Beltrame, et je compte bien sûr sur les curés et les équipes d'accompagnement pour envoyer massivement, hein, comme quelque chose qui n'est pas facultatif, leur couple à Pau pour passer cette journée. Et je crois que l'expérience montre que même si aujourd'hui, quand on va dans ce genre de choses, au départ on y va peut-être parfois avec des pieds de plomb, mais ensuite on en sort avec des ailes. Et donc je ne peux qu'encourager les fiancés qui se préparent au mariage cette année à participer à cette belle journée.
À la fin du mois, nous célébrerons le Triduum Pascal. Vous célébrerez la messe chrismale à Oloron le mardi 26 mars à 18h. Il y aura une journée pour les prêtres le mardi 26 mars.
Qui commence par le déjeuner.
Et ensuite, vous serez où pour Pâques ?
Et pour Pâques, je serai ici à la cathédrale, hein, pour la vigile pascale, où je baptiserai d'ailleurs une jeune fille qui se prépare depuis 2 ans à la cathédrale comme catéchumène.
Lana, voilà.
Et puis le lendemain aussi, le dimanche de Pâques. Sachant que, faites bien attention, que cette nuit pascale sera plus courte que d'habitude, puisque nous allons
changer
d'heure.
Merci beaucoup, Monseigneur Marcaillet. Merci, Alexandre Aguerre. Et bonne montée vers Pâques à tous nos auditeurs.
Merci.